Et voici la revue de presse internationale. Bonjour Ilan Malka.
Bonjour Chloé, bonjour à tous.
La presse internationale qui évoque notamment ce matin les tensions à la frontière israélo-libanaise.
Oui, l'armée israélienne affirme notamment que 3 à 5 hommes armés de fusils ont pénétré hier au-delà de la ligne bleue qui sépare l'État hébreu du Liban. Les forces de sécurité ont ouvert le feu. Selon l'armée toujours, il s'agissait d'une tentative d'infiltration d'une cellule terroriste. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a pointé du doigt le Hezbollah qui, je cite, avec le gouvernement libanais, porte la responsabilité de toute attaque venant du territoire libanais. Fin de citation. Le Hezbollah a réagi ensuite dans un communiqué. Il a nié toute implication. Tout ce que les médias ennemis rapportent est totalement faux. Voilà ce que l'on peut lire. Alors, plusieurs questions se posent. Tout d'abord, comment est la situation à l'heure actuelle? La chaîne de télévision Al-Manar du Hezbollah évoque un retour au calme à la frontière, information confirmée par la FINUL, la force de maintien de la paix de l'ONU dans la région. Le Hezbollah est-il bien responsable des combats d'hier, comme l'en accuse Israël? Alors à ce sujet, voici ce que l'on peut lire dans le quotidien francophone libanais L'Orient le Jour. Une source sécuritaire indique au journal que le parti chiite, le Hezbollah donc, aurait effectivement mené une opération à la frontière. Sans pouvoir la définir comme une infiltration, la source estime que l'opération a été lancée pour sonder la capacité d'Israël à la confrontation et conclut que c'est parce que l'attaque a échoué que le Hezbollah a ensuite publié donc ce communiqué démentant toute implication dans les accrochages. Pourquoi est-ce que le Hezbollah aurait mené une telle opération? Là encore, élément de réponse dans le journal libanais L'Orient le Jour. Après la mort d'un combattant du Hezbollah, Ali Kamel Morsen, tué le 20 juillet dernier dans un raid israélien en Syrie, le pays, peut-on lire, retenait son souffle, s'attendant à une riposte du parti chiite. Risque-t-on un conflit de grande ampleur entre Israël et le Liban? Plusieurs analystes interrogés, là encore par la revue libanaise, pensent que non. Pour l'un d'eux, Sami Nader, aucune des deux parties n'a intérêt à une conflagration large. Toutes deux préfèrent opter pour des opérations limitées.
Alors Ilan Malka, qu'en dit de l'autre côté la presse israélienne?
Selon plusieurs articles israéliens, cette montée de tension peut permettre en quelque sorte aux deux États, Israël et le Liban, de ressouder une population qui, dans les deux cas, est très en colère. Dans le quotidien Israël Hayom, par exemple, un éditorial qui date de dimanche dernier, donc publié avant même les événements d'hier, est intéressant à cet égard. Il rappelle que le Liban est actuellement en proie à des troubles sociaux, instabilité politique et à l'une des pires crises économiques de son histoire. Le Hezbollah, peut-on lire, est au plus bas. Au Liban, on lui attribue la responsabilité de la crise. Il est possible qu'en raison de la détérioration de sa situation intérieure, écrit le journal toujours, le Hezbollah puisse attaquer Israël pour prouver au peuple libanais à quel point il joue un rôle vital en le protégeant de l'ennemi sioniste. De son côté, le gouvernement israélien, extrêmement critiqué actuellement, notamment pour sa gestion de la crise du coronavirus, pourrait-il lui aussi tirer quelque avantage à un conflit avec son voisin? Eh bien, c'est en tout cas ce que suggère un article du Jérusalem Post en date d'hier soir. La vie elle-même, écrit-il, pourrait donner à Netanyahou et au Premier ministre suppléant Benny Gantz le coup de pouce dont ils ont besoin pour maintenir ensemble leur gouvernement d'unité dysfonctionnelle. Quand Israël est attaqué par ses ennemis, nous dit le Jérusalem Post, il y a un effet de rassemblement autour du drapeau. Politiciens et citoyens ordinaires sont beaucoup plus unis pour soutenir les dirigeants du pays et les actions qu'ils prennent pour le défendre. Fin de citation.
Partons à présent pour la Tunisie qui, depuis quelques jours, a un nouveau Premier ministre.
Oui, depuis samedi soir, plus précisément, il s'appelle Hichem Mechichi. Auparavant, il était ministre de l'Intérieur et il a donc été désigné par le président tunisien Kais Saied. Alors, il a un mois pour former un gouvernement dans un contexte politique très tendu en Tunisie. Il doit rassembler une majorité au sein d'un parlement qui est extrêmement fragmenté. Qui est-il, ce nouveau Premier ministre? Le site d'information Al-Bawaba, notamment, le décrit comme une sorte d'homme inattendu, un outsider, dirait-on, pour user d'un anglicisme. Mechichi ne figurait pas parmi les 21 noms proposés par différents partis politiques pour le poste de Premier ministre. Il n'y a pas eu, d'ailleurs, peut-on lire, de réaction officielle des partis politiques à sa désignation. Le choix a malgré tout été salué par de nombreux centristes et laïcs modérés. Il a été, en revanche, critiqué par des personnalités proches des islamistes. Alors, l'article s'interroge, que vont faire justement les islamistes du parti Ennahda? Vont-ils soutenir ce Premier ministre qui n'est pas issu de leur rang? Ils y ont quand même plutôt intérêt. S'ils décident de s'opposer à un vote de confiance, ils risquent, peut-on lire, de voir le président Saïed appelé à des élections anticipées où ils n'auront aucune garantie de réussite. C'est sans doute pour cela qu'Ennahdha adopte déjà un ton plutôt consignant avec ce nouveau Premier ministre. Ça, on peut le lire sur le site The Arab Weekly. Hajmi Lourimi, qui est membre du bureau exécutif du mouvement islamiste, affirme que le parti n'a aucune réserve à l'égard de Meshichi. Il considère réussi ce choix d'une personnalité indépendante pour former le gouvernement. Dans The Arab Weekly, toujours, le regard d'Alaya Alani, qui est un analyste politique tunisien. Pour lui, le choix de Meshichi porte trois messages. Priorité au rétablissement de la sécurité, lutte contre la corruption et enfin changer le système politique et constitutionnel.
Merci Ilan Malka, votre revue de presse internationale est à retrouver sur franceculture.fr.